tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le livre de Frog. Roman, discussion, échange, livre. Le livre de Frog. Littérature, livre, page, invité,
marque-page.
Le livre de Frog. Eh bien, bonjour, bienvenue sur Radio Grenouille pour le livre de Frog. Avec Elodie, nous avons parcouru l'Europe pour arriver jusqu'à vous en passant par notre fac de lettres. Et nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Benoît Gilles qui va nous parler du tout monde d'Edouard Glissant. Et nous commençons l'émission, comme d'habitude, avec un extrait que nous lit notre invité. Le livre de Frog.
Il faut y revenir quand vous y êtes passé. Ah, je vous dis ces belles paroles. Mais quelle terre découvrez-vous là, quand vous criez ainsi « Terre, terre !» Êtes-vous la vigie de vos rêves désassemblés ? C'est même terre, et ce n'est pas. Elle a varié depuis le temps. La terre bouleverse et multiplie. Vous ne voyez pas ça ? Elle souffre et supporte, et elle vous change aussi. Vous ne voyez pas ça ? Ne criez pas que la terre vous appartient. La terre n'appartient qu'à la terre. Vous n'estimez pas ses limites, elle passe par en dessous. Et si une terre transporte sa limite dans l'étendue sauvage du monde, tout en surface, parce qu'il faut bien qu'elle tombe ainsi à la rencontre des autres terres qui là-bas, elles, les poussent, ne considérez pas cette borne comme une barrière qui vous protège. Qui vous protégerait de quoi ? Ce qui vous consume dans le monde et vous contamine, toute cette énergie inconnue de vous, force à travers aucune barrière. C'est ce que nous explique Carros, qui rit toujours de nos complications. Sa figure est ouverte comme un jour de carnaval, et il ne sait pas qu'il assure la continuation de Colino et de Panoplie. Quand il rencontre celui-ci, c'est un parcours sans fin de toutes les dérivades de mots que vous pouvez imaginer.
Bonjour Benoît Gilles.
Bonjour.
Bienvenue au livre de Frog. Salut Erika.
Bonjour Elodie, bonjour Benoît. Bonjour.
Alors Benoît, vous êtes rédacteur en chef du site d'information en ligne marseillais Mars Actu. Vous êtes un journaliste donc marseillais, passé entre autres par la Marseillaise, le pavé, le ravi. Alors vous venez de nous lire un extrait du Tout Monde, ce livre d'Edouard Glissant, publié donc chez Gallimard en 93 et qu'on peut retrouver en folio pour nos lecteurs. Quelques mots sur Edouard Glissant, c'est un écrivain antillais, donc né en 1928 sur l'île de la Martinique. Il a quitté son île pour faire ses études de philosophie à la Sorbonne. C'était dans les années 50, donc les années de Camus et de Sartre aussi. Il a obtenu le prix Renaudot en 58 pour La Lézarde. On connaît Edouard Glissant aussi pour une littérature qui tient à un engagement dans le monde, à un engagement sur des questions politiques aussi. Alors on y reviendra sûrement. L'anticolonialisme, d'autres concepts comme la mondialité, la diversalité, ce mot de relation à laquelle il met une majuscule, la créolisation aussi, on en parlera, une œuvre multiple, puisqu'il a écrit des romans, des essais importants, de la poésie, du théâtre. Et pour revenir aux essais, il existe aussi un traité du tout monde qu'il a donc publié en 97, qui est un peu le versant théorique du roman dont on va parler. Ce roman, en effet, illustre un certain nombre de concepts présents et de principes présents dans ce traité. L'ambition romanesque de Glissant est très grande dans ce livre, dans ce roman, à propos duquel on a parlé de chemins broussailleux et baroques et de tourbillons. Le livre commence par le rappel des péripéties qui ont précédé. C'est vrai qu'on retrouve des personnages déjà présents dans des livres antérieurs. C'est un livre qui demande au lecteur une attention soutenue. On en a fait l'expérience avec Erika et ça me rappelle la dernière émission avec le libraire donc, de l'Histoire de l'œil, Emmanuel Picot. On avait fini là-dessus quand on avait parlé de 1666 de Roberto Bolaño. Il avait dit que ça faisait partie des livres qui attendent beaucoup de leurs lecteurs. Donc là, je crois que le tout le monde en est un autre. On a un entremêlement de narration, de registres, de points de vue, de paroles plus que de discours d'ailleurs. On croise plusieurs personnages, on va y revenir, dont le fameux Mathieu Belluze qui apparaît dans d'autres livres, qui est un peu l'alter ego de Glissant. Et pour dire encore un petit mot de ce livre, son mouvement, peut-être que vous pourrez réagir là-dessus, est plutôt, tient plutôt de la dérive que de la progression. Le principe des frontières est aboli en un mélange des mondes, un mélange des imaginaires, un mélange des langues, comme si on nous donnait à voir finalement une autre humanité en ces temps mondialisés, puisque ça ne s'est pas terminé dans les années 90, cette histoire de mondialisation, bien au contraire. Alors, je m'arrête là et je vous pose notre question rituelle. Pourquoi avoir choisi ce livre d'Edouard Glissant ? Pourquoi Le Tout Monde ?
J'ai beaucoup hésité entre le livre qui était sur ma table de chevet ou un livre qui m'aurait plu dans les semaines passées, ou ce livre-là qui a compté pour moi comme une entrée, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce que c'est par là que je suis rentré dans l'œuvre d'Edouard Glissant, et je pense qu'on ne peut pas le lire pour ce qu'il est, ou uniquement comme un roman unique, et on s'arrêterait à ça. L'intérêt de ce livre, c'est justement d'être le centre, ou pas vraiment le centre, quelque part sur la toile de son œuvre, et de nous amener ailleurs. Et je pense que sa portée est à mettre en relation avec à la fois toute l'œuvre de Glissant, parce que finalement, l'ensemble des personnages, ou une grande partie des personnages, ou des... Je ne sais pas si vraiment c'est des personnages, finalement, hein, qui traversent le tout le monde, ben on va les retrouver dans toute l'œuvre romanesque de Glissant. Et pas seulement la sienne, finalement, parce qu'ils font écho à l'œuvre romanesque de Patrick Chamoiseau, qui a été un frère, hein, en écriture, oui, ces dernières années, mais aussi celle de Saint-John Perse, de Césaire, oui, de Confiant, de Aliker, et la liste est non close, hein, puisque c'est une liste qui non seulement embrasse les Antilles, cette petite cette grappe d'îles américaine, mais qui a des échos au Brésil, qui a des échos en Amérique centrale, en Afrique, en Europe, partout dans le monde. C'est là l'idée, hein, l'idée force, c'est que le monde est un et multiple, et que la littérature peut servir à quelque chose dans la compréhension de ce chaos.
Et quel souvenir vous gardez de votre lecture, hein, qui est donc ancienne
Elle est proche de la vôtre, en fait, finalement.
Oui.
Moi, j'y suis rentré.
C'est gentil de préciser, ouais. La narration, peut-être.
Alors, j'avais un petit peu... Je connaissais déjà la littérature antillaise par Confiant, par Chamoiseau, par Césaire. Forcément, ça, si on lit Chamoiseau ou Confiant, on va vers Glissant naturellement. Et donc, j'ai abordé celui-là parce que je pense que il venait de paraître, je crois. Et je l'ai abordé avec... je l'ai abordé et quitté avec le même effet que celui que vous avez ressenti, c'est-à-dire l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou de ne pas avoir tout compris. Et c'est là une des particularités. Peut-être que c'est un roman raté, peut-être qu'il ne remplit pas toutes les fonctions qu'un roman doit rendre, en tout cas de ce qu'on attend de plaisir, de complétude, d'un chemin, etc. Ça, c'est absolument pas ça qu'il propose. Mais en revanche, c'était une magnifique porte ouverte, parce qu'à partir de là, j'ai lu pas tout Glissant, parce que ce serait prétentieux, mais je suis allé chercher justement toutes ces traces, toutes ces dérives, puisque ça fait partie du vocabulaire qu'il emploie, qui mènent soit vers Chamoiseau, soit vers tous ses autres romans, pour recomposer le puzzle, recomposer en partie, mais sans jamais y arriver, puisque finalement, un des autres concepts qui vient polir sans arrêt, c'est celui d'opacité. Il revendique aucune clarté. Les mots concepts, ces mots clés qui nous, doivent nous aider à mettre pas de l'ordre, mais c'est pas le cas, mais en tout cas à essayer de mettre de la positivité dans le monde, c'est des mots qui ont une part d'ombre, c'est des mots qui n'éclairent pas, qui n'expliquent pas, c'est une piste à suivre.
Puis on a peut-être quelque chose, moi j'ai ressenti ça en lisant, qui ressort plus de l'émergence, en fait. On a effectivement l'impression de ce grand désordre, et puis il y a quand même des idées, des mots qui reviennent, se drivent, qui reviennent. Moi je suis allée chercher, au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce que c'est ce, ce drive, en fait, c'est un mot créole qui veut dire errer de ci, de là, s'attendre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, moi je trouve, non, de, qui ressort aussi de l'émergence quand on le lit. C'est-à-dire, c'est pas non plus un truc où on ne comprend strictement rien. C'est différent d'un roman traditionnel, ça oui.
Ouais. C'est là où c'est intéressant et c'est là où je pense que la littérature a son rôle pleinement, hein, pas au sens de la lumière qui éclaire le chemin, mais dans le sens de ce que ça peut mettre en débat, de ce que ça peut amener à la discussion, de ce que ça propose à l'échange, hein, et l'errance, cette espèce de parcours erratique, ça fait partie des clés, comme la mangrove, parce qu'il y a aussi un jeu entre le lieu et le dire, hein, et la mangrove, c'est-à-dire cette espèce de lieu indéfini entre la mer et la terre, où toute une vie émerge, c'est un lieu essentiel. On le sait, à la biodiversité mondiale, c'est un lieu qui est particulier de ces terres tropicales, mais qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et c'est de la boue, quoi. Ça pue, mais c'est hyper fécond. Et je pense que la matière du livre, elle est aussi là-dedans. Elle est dans cette boue-là, dans ce mélange, dans ce lieu imparfait où émergent des racines sans arrêt.
Bon, alors le problème, c'est qu'il fallait bien partir de quelque part pour en parler de ce livre. Alors, je me suis posé la question et puis je me suis dit, bon, on va faire simple, on va aller au départ. Par où commence Glissant ? Et c'est vrai qu'Élodie en a parlé quand elle a présenté le livre au tout début, avant le roman même. Il y a ce que Glissant appelle un rappel des péripéties qui ont précédé. Et que, si on ne connaît pas bien l'œuvre d'Édouard Glissant, ce qui était mon cas puisque je n'ai rien lu d'autre d'Édouard Glissant avant de commencer, reste un peu mystérieux encore une fois. Mais tout de même, ce rappel des péripéties a au moins l'avantage de nous situer dans un territoire. Enfin, dans un territoire. Glissant n'aimerait pas le terme territoire. Dans un lieu, nous dire, ou dans un cadre. Et qui est effectivement un décor, un cadre qui sera après vite brouillé parce qu'on va vite le quitter, ce cadre qui est celui de la Martinique. On a tout un tas d'événements donc dans ce rappel des péripéties qui seraient survenus sur cette île antillaise depuis 1700 et quelques jusqu'à aujourd'hui. Et ces péripéties nous sont relatées très successivement puisque ça fait une page et demie, guère plus. Et dont par exemple, on nous dit que plusieurs esclaves ont marronné au cours des siècles, c'est-à-dire qu'ils se sont enfuis de leur lieu de servage. On nous parle d'un certain gars, un géreur qui est un directeur d'exploitation qui serait mort noyé en 1945 dans la Lézarde, qui est donc une rivière. Après s'être battu avec un certain Raphaël Targin, on fait aussi allusion à une certaine Valérie Tellus, déchiquetée à mort par les chiens du même Raphaël Targin dont on vient de nous parler, et encore bien d'autres personnages, comme vous dites, si on peut les appeler comme ça, on ne sait pas trop, dont le fameux Mathieu Belluze, Longoué ou Marie C'est là. Et ces personnages, on se rend compte au fil de la lecture qu'effectivement, on va les retrouver de manière sporadique, de manière éclatée, peut-être parfois de manière incomplète, c'est-à-dire qu'on n'aura pas effectivement des informations très claires sur tous ces personnages, on aura leurs histoires, mais pas des informations très claires. Mais toujours est-il que ce rappel des péripéties finit comme ça. Donc après ce rappel de tout, à travers les siècles, de tous ces événements, ce rappel finit comme ça. Édouard Glissant écrit « Telle fut, pour cela et pour combien d'autres, l'approche du tout-monde ». Donc une manière pour moi d'aborder, parce qu'il fallait bien commencer par quelque part, ce roman en soulignant d'abord qu'effectivement, comme toute œuvre de Glissant, le tout-monde est d'abord profondément ancré et lié à la voix, ou plutôt il faudrait dire les voix, de la Martinique, des Antilles, des Caraïbes. Alors justement, voilà, quelle place pour cette île et pour cette région du monde dans cette œuvre, et puis peut-être plus globalement pour Glissant. Voilà, comment vous l'avez appréhendé ?
Alors, la première chose, c'est de dire que ces toutes petites îles sont, au point de vue littéraire, d'une fécondité à nul autre pareil, quoi. Je veux dire, si on prend les deux îles françaises, je vois qu'il y a un prix Nobel. Enfin, si on additionne les prix, il y a nulle part ailleurs on peut trouver une telle concentration d'auteurs. Et puis, alors, si on ajoute Cuba, si on ajoute Haïti, qui est à quelques centaines de kilomètres, Bon, cette incroyable fécondité, elle a une explication. Elle s'explique par l'enchevêtrement des mondes qui a été créé par la découverte des Amériques et ensuite les couches successives qu'on va trouver de cultures qui ont fermenté, qui ont créé une religion, une langue ou des langues. Voilà. Donc c'est dans ce terreau-là d'une richesse donc particulière, qui dit quelque chose du monde en entier, que Gliss en est. Et très vite, il s'installe dans une parentèle littéraire. C'est-à-dire que littéraire et poétique. C'est-à-dire que à la Martinique, le maire de la capitale, c'est Aimé Césaire. Je veux dire, c'est un immense poète. Et c'est à la fois le maire. Donc on est obligé, si on est à cet endroit-là, on est obligé de se positionner par rapport... Et si on a une ambition littéraire en plus, on est obligé de se positionner par rapport à lui. C'est aussi l'île d'où part et où écrit Frantz Fanon, qui, avec Les Damnés de la Terre, a écrit un roman révolutionnaire qui d'une fécondité incroyable, je veux dire, qui est encore aujourd'hui est lu par les révolutionnaires du monde entier comme une œuvre fondatrice. Sans compter tout ce qu'il a écrit aussi sur la psychanalyse, sur le rapport entre blanc et noir, etc. Donc, Glissant, il part de là. Donc, sa drive, sa trajectoire à lui, qui va être la trajectoire aussi d'un étudiant classique qui monte en métropole pour faire ses études brillantes, etc., c'est aussi de se positionner par rapport au concept. Vous parliez de Sartre et de Camus, mais c'est pas Sartre et Camus. Ils vont être dans le paysage, mais ça va être plutôt Fanon
qu'il rencontre, dont
il va épouser en partie les thèses révolutionnaires. Et ensuite, ça va être Césaire, dont là aussi, il va venir discuter et questionner et contrer les réflexions sur la négritude. Et ensuite, en Europe, ça va être Deleuze et Guattari, et la pensée rhizomique, voilà, qui là aussi, il va prendre et intégrer. Et ça se poursuit toujours dans cette logique de lézard, de ramification et de parentalité entre les romans. Et juste pour revenir à votre accroche, donc effectivement le roman commence par ses péripéties. Chacune de ces péripéties finalement est un roman en soi, le résumé d'un roman qui est tout aussi opaque, qui est tout aussi difficile à saisir dans son unité. Et donc je ne sais plus dans lequel exactement. Il y a à un moment donné un arbre généalogique et où on peut placer de qui est le frère de qui et qui est la sœur de qui et qui est Papa Longwe qui meurt quatre fois et qui survit depuis l'arrivée d'Afrique. Et bon, ça aide à comprendre et puis pas du tout en fait. mais tout ça se répond. Je veux dire, on parlait tout à l'heure, enfin on en parlait juste avant, de la question de l'intrication. C'est-à-dire, si on réfléchit, il l'a écrit notamment dans La Cohue du Lamantin, il y a la mondialisation, c'est ce qu'on raconte, de ces marchandises qui parcourent le monde depuis des siècles, mais qui se sont accélérées à la fin du siècle dernier de manière folle. Et puis, il y a le versant humain de cette mondialisation qui est la mondialité, c'est-à-dire que la conscience du monde qui naît en même temps que ça. Et ça donne à voir un chaos. Qui est fait d'intrication, qui est fait de diversité, lui, donc il dit qui est plus que un, donc qui est plus que l'universalité que l'Europe a voulu poser un étendard du monde. C'est le plus que ce plus que l'un, il faut en faire quelque chose. Pour l'instant, il est douloureux. Voilà, il le dit, et c'est la réalité de ce qu'on vit, c'est la réalité des gens qui traversent les militaires, les mers, et qui meurent pour atteindre je ne sais quel graal. C'est la violence des guerres. Cette diversité-là, elle est violente. Cette fin des puretés, elle se fait dans le chaos. À nous maintenant d'en faire soit une plongée vers notre fin, soit d'en faire quelque chose de fécond. Et la littérature est là pour mettre des graines dans cette fécondité. Elle donne pas de route, mais en tout cas, elle tire ce qu'il y a de partageable dans ce chaos.
Je voulais réagir sur le... Parce que trouver quelque chose qui était intéressant. Et pour moi, c'était aussi une des clés, en fait, pour comprendre le chaos et l'entrelacement. C'était cette opposition à l'Europe, aux États-Unis, enfin, tout ce qui est la pensée occidentale, qui est cette pensée, justement, de l'ordre. De la ligne et de l'ordre et notamment du refus de l'absolu de l'histoire avec un grand H Et justement, pour moi, il y avait un petit peu de ça aussi dans cet entrelacement d'histoire. C'était de dire, on ne va pas donner une vérité. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer, peut-être ça a été fait, mais un auteur martiniquais qui dit, ben, je vais prendre le contre-pied et montrer quelque part l'histoire de la Martinique, mais du point de vue d'un Martiniquais, et pas du point de vue de la construction de l'histoire telle qu'elle a été faite par l'Europe. Mais là, c'est même pas ça qu'il propose, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il retrace pas une histoire chronologique de la Martinique. Il raconte des histoires avec des petits H, et pour moi, il y avait de ça, et du coup, en fait, on peut même reconstruire l'histoire de la Martinique parce qu'on passe partout. Par toutes les phases, les grandes phases historiques, depuis les Indiens qui ont été massacrés jusqu'à l'arrivée des esclaves par les bateaux négriers. Et donc, du coup, pour moi, il y avait de ça aussi. Je voulais juste le remarquer parce que ça m'a fait penser à ça là-dessus. Et il y a ce contre-pied, j'ai envie de dire, aussi, qui pour moi explique ce refus peut-être de l'ordre et de la... Vous en parliez au début, en fait. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, de dire c'est pas ce qu'on attend d'un roman traditionnel. Enfin, c'est pas ce qu'on attend d'un roman traditionnel dans ce qu'on l'entend, dans ce qu'on nous a toujours presque présenté, finalement.
Bon, c'est aussi la particularité du roman de ne pas avoir un modèle établi et des romans complexes à la structure flottante, tournoyante. Ça existe depuis Don Quichotte. Donc là-dessus, on peut être rassuré. Chaque roman des arsones et chaque roman important a cette part d'opacité. Après, je pense que le jeu d'opposition, c'est un autre romancier qui utilise cette expression, qui est une expression très juste. C'est René de Pestre, qui est un romancier haïtien qui vit dans le sud de la France. Il dit « L'Europe est un métier à métisser ». Je pense qu'il ne faut pas être dans un jeu d'opposition. C'est-à-dire que l'Europe elle-même a jamais modifié par sa logique de conquête. Elle s'est à jamais modifiée en allant découvrir l'Amérique. Elle s'est à jamais modifiée en mettant des millions d'hommes dans des bateaux et en les projetant à des milliers de kilomètres de chez elle. Donc l'Europe, avec cette logique d'extension et puis d'imposition d'un modèle unique, d'une histoire unique, pourrait paraître effectivement l'hydre à abattre, mais en même temps elle a créé le poison qui est en elle-même, et ce poison fécond lui a pris le monde. Alors après, là où il y a une vraie opposition, c'est sur l'idée qu'il y aurait une histoire qui serait dictée par un centre, le centre dominant, et qui raconterait l'histoire du monde au reste des humains. C'est vrai que dans la pensée de Glissant, il y a l'idée que un jour peut-être on arrivera, par confrontation de d'histoires particulières, à raconter une histoire commune. On en est très loin, mais petit à petit, je pense que dans la recherche, il y a une inflexion de cet ordre-là.
Oui, voilà, hein, c'est ça que je voulais.
De confronter l'histoire, de la guerre d'Algérie vue par un Algérien, de la confronter avec l'histoire d'un Français qui a vécu la même guerre, et d'arriver à une histoire commune qui soit à mi-chemin, mais qui serait pas un consensus, qui sera aussi constitué de ces oppositions et de cette difficulté à faire un. Mais voilà, je pense que c'est ça.
C'est un peu ce qu'on avait vu dans le roman d'André Brink. Non, on avait cette confrontation des points de vue, par contre, effectivement, d'une même histoire, mais vraiment du point de vue de l'esclave, du maître, tout ça. Bref, c'était pour ça.
Oui, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a quand même cette image de l'archipel qui est là aussi très très fécond chez Glissant, et pour la pensée qu'il développe. Finalement, on parle de pensée archipélique. Alors, comme Glissant invente des mots, on invente des mots pour lui aussi. Et je trouve que on retrouve bien l'idée qu'il n'y a pas de linéarité de l'histoire chez Glissant, que c'est un vrai parti pris. Et en même temps, par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire de parentalité, de ramification, mais en même temps, il y a aussi de la distance, quoi. Il y a aussi entre les îles une forme de relation, mais aussi cette relation peut être vue comme une tension. J'ai l'impression que Glissant s'appuie beaucoup sur la géographie, celle qu'il a connue, mais aussi en construisant des métaphores géographiques pour écrire, et notamment le tout monde dont le titre quand même est assez, est assez parlant.
Ouais, oui, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, je veux dire, la Martinique, c'est minuscule, hein, c'est plus petit que les Bouches-du-Rhône, hein, et en habitant, c'est beaucoup moins que Marseille, donc on est là sur un tout petit espace, mais où les lieux sont construits avec de l'histoire et où ces lieux peuvent être tirés comme une forme de métaphore. C'est ce que je disais tout à l'heure du lieu naturel ou de la mangrove qui peut être vu comme une métaphore, mais comme la Lézarde qui est une vraie rivière peut être aussi la trace, peut être aussi la cassure, peut être aussi la drive qu'on suit. Donc c'est effectivement cette notion de lieu et d'archipel d'île, de poussière d'île, il en fait effectivement un terreau à partir du il construit des idées qui vont au-delà de la terre et qui vont au-delà même de la littérature, puisque finalement, au fur et à mesure, il n'a jamais cessé de s'impliquer, mais même dans ces dernières années, il a toujours tenu à avoir un rôle politique, à faire entendre sa voix d'écrivain. Il est parmi ceux qui ont créé le Parlement des écrivains, mais même, par exemple, il avait pris position très clairement contre le ministère de l'Identité nationale avec Chamoiseau, donc, alors que là, il était déjà, je veux dire, au crépuscule de sa vie, pour prendre une expression toute faite. Et voilà, il tenait à ce rôle et il a toujours été le porteur, l'ambassadeur de ce qu'il pensait être pouvoir donner au monde et donner en partage. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ça part effectivement de ces îles, ça part de concepts poétiques, mais c'est au-delà, ça va au-delà. Et ça nous renseigne aussi sur la place que peut avoir la littérature dans nos vies, finalement. Hein. C'est cette capacité à décentrer le regard et à regarder le réel, mais le réel de tous les jours, hein, le réel du métro, le réel du tram, le réel des trognes. Voilà. Et à les regarder autrement, dans cette relation de tension qui est dans le roman, mais qui est aussi dans nos vies à tous.
Bien sûr. Et moi, je rebondis à la fois sur ça et à la fois sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette image du chaos, justement, qu'on retrouve énormément et qui, oui, justement, correspond un peu à ce qu'on peut voir dans le monde de tous les jours, finalement, une image de quelque chose de très chaotique, de très désordonné, et que lui ne cherche pas à ordonner. Et c'est là, je pense, une de ces revendications qui sont fortes. Et notamment, je crois que c'est au début du livre, on rencontre ce personnage fou qui est Panoply. Et personnages fous qui sont importants en plus dans l'œuvre de Glissant, parce qu'il dit qu'il déparle. En fait, c'est la notion de déparler qui est justement déconstruire le discours et la parole habituelle. Et ce Panoply, on peut lire, et à un moment, il dit « Il vous brandit que c'est partout déréglé, déboussolé, décati, tout en folie, le sang, le vent, mais que c'est le monde entier qui vous parle par ma voix de Panoply. Où que vous tournez, c'est désolation, mais vous tournez pourtant. » Et pour moi, là, c'est une idée qui me plaît vraiment beaucoup chez Glissant, c'est cette idée que non, c'est pas ordonné, on va arrêter de prétendre qu'il y a un ordre, et qu'on va pas non plus chercher l'ordre dans le désordre, chose que d'autres ont pu faire, mais par contre, on va essayer d'apprendre à tourner avec le... De toute façon, on est obligé, donc apprenons à tourner avec... avec le désordre, et c'est là où on voit aussi que finalement, la portée universelle que peut vraiment prendre à partir de ces îles, et comme dit, de cette expérience richissime qu'il y a dans ces îles, et qui a été dans la violence. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'il le dit. Il dit, je ne veux pas dire, enfin, il y a eu de la violence, mais il y a quelque chose qui est né de cette violence, et on peut en faire quelque chose. Et de là, je trouve qu'il y a vraiment je ne suis pas la seule, mais il y a vraiment cette idée de dire que dans la pensée, dans les concepts de Glissant, il y a quelque chose qui a trait à l'universel, finalement, et une manière de penser le monde d'aujourd'hui dans son aspect chaotique, dans ses conflits, dans ses tensions, mais de manière positive. Et du coup, vous le percevez comment, cette dimension plus universelle, peut-être.
Alors,
plus mondiale.
Je ne sais pas si c'est universel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a un effet de flux et de reflux, un effet de ressac entre ce qu'il décrit comme étant la créolisation, c'est-à-dire ce qui finalement nous rend tous bâtards, et qui est un effet manifeste de la mondialisation, c'est-à-dire que tout se mélange, et la chaise en plastique qu'on a dans son jardin, on va trouver exactement la même chaise en plastique à 10 000 km sur une petite île africaine, et exactement la même au fin fond de la Chine qui va la fabriquer pour tout le monde. Bon, on est dans cette logique-là des objets, mais aussi de nos cultures, et on peut pas se dire que je suis dans un champ clos et que je suis dans un, voilà, dans un truc protégé. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe plus. Donc, cette pureté n'existe plus. Plus personne ne peut dire aujourd'hui, je suis pur. Ma culture est pure, elle est protégée du reste du monde. C'est pas possible. Mais en même temps, c'est un ressac. C'est-à-dire que le mouvement du monde, ce mouvement chaotique, il est vers ça, vers une forme de créolisation, de mélange, de rencontre, d'imbrication, de culbute. Mais en même temps, on sent qu'il y a une tension et qu'il y a une partie du monde qui est dans le refus de ça, qui est dans une quête de pureté. On le voit, ça s'accroche aux religions, ça s'accroche aux cultures, ça s'accroche aux frontières, et on est sans cesse dans ce va-et-vient. On n'est pas dans une pensée positive qui, de manière magique, permettrait de trouver la solution. Malheureusement, non. Je l'ai rencontré deux fois par le fait que je suis journaliste et que donc on peut parfois rencontrer les gens qu'on aime. Et je lui parlais de Marseille parce que j'étais un journaliste de presse locale, donc il fallait confronter finalement ses concepts et sa pensée à ce que je vivais, à la ville que je vivais. Et Marseille est dans une étape de créolisation. C'est une ville-monde. C'est une ville-monde depuis son début, hein, puisqu'elle n'est faite que de rencontres entre les deux, entre plusieurs cultures, la culture substrat, tout se mélange. Et donc, le statut de ville-monde, oui, certes. Le phénomène de créolisation, oui, c'est effectivement en marche. La remarque qu'il m'a faite, c'est de dire que toutes les villes comme ça en Méditerranée sont tombées dans le chaos. Que ça soit Sarajevo, que ça soit Beyrouth, depuis l'Égypte, toutes ces villes-là, finalement, ont dû affronter par la violence l'état du monde. Alors, je ne souhaite pas que ça arrive à Marseille, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un processus, et que ce processus-là, c'est un processus de va-et-vient entre des forces contraires et dans lequel il y a encore et toujours beaucoup de violence.
Alors, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais c'est très bien. C'est vrai que c'est une des choses que je voulais aborder, et le témoignage que vous apportez de Glissant lui-même finalement me donne une réponse. C'est-à-dire que en lisant ce livre et puis en faisant un certain nombre de recherches sur Glissant, je n'avais pas forcément l'impression d'une pensée positive ou d'une naïveté, mais c'est vrai que il était souvent, donc il est question avec la créolisation d'une interpénétration des cultures, et c'est vrai que j'avais envie de me faire un peu l'avocat du diable, mais vous l'avez fait avant moi en parlant quand même justement du ressac, pour réemployer votre mot. C'est vrai que aujourd'hui il y a les replis identitaires, il y a une tension très forte. J'ai vu il y a peu un atlas de tous les murs, hein, les clôtures présents dans le monde pour séparer les États, ne serait-ce qu'à Marseille, il y a aussi des frontières très fortes et un décloisonnement que certains refusent. Du coup, je trouvais important de faire cette remarque par rapport à Glissant. Voilà, ce n'est pas qu'une pensée d'espoir déconnecté d'une réalité qui peut nous apparaître comme tout à fait contraire aux propos de notre auteur. Donc ouais. Voilà.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, c'est un regret que j'ai par rapport à lui. Je l'ai rencontré deux fois dans la région et j'ai pas pu lui poser la question que j'aurais aimé lui poser. C'est la question des religions, parce que c'est quelque chose qui n'aborde pas cette question de où là on a vraiment un effet de pureté. Hein, parce qu'on croit détenir la vérité à partir de la lecture d'un livre, ou d'ailleurs pas d'un livre. Hein, et là-dessus, on trouve peu de traces dans son œuvre de cette question religieuse qui, pourtant, est, pour le coup, produit beaucoup d'effets de pureté. Donc bon, il n'a pas réponse à tout, donc ça c'est un effet. Après, la deuxième chose, c'est se dire le côté dérisoire, quoi, des murs. On en est à construire des murs. Je veux dire, contre quoi on construit des murs ? C'est quoi qu'on affronte ? Enfin, c'est quoi qu'on doit affronter en face de nous ? Qu'est-ce qui fait tant peur ? C'est ça, c'est là où, sans être, ça apporter des solutions, être justement positiviste, se dire que là, ce serait le bréviaire d'un avenir radieux. Se dire contre quoi on construit ça ? Contre quoi on se protège ? Je veux dire, pour le coup, c'est pas E.T., quoi. Hein, je veux dire, c'est pas le meilleur des mondes. C'est des humains, c'est des femmes, des hommes. Des... Voilà. Donc, c'est ce qui est effrayant, hein, parce que l'apocalypse n'est jamais loin. Mais c'est aussi rassurant de se dire que c'est contre. Qu'on a des piètres murs pour se protéger contre nos frères, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu rassurant.
Moi, je reprends le contre-pied et je reviens justement à cette idée de littérature et de place de littérature. Et je trouve que glissant dans ce sens-là, voilà, parce que quand ils parlent de créolisation, je ne pense pas qu'ils disent que c'est fait, enfin que le versant positif de la mondialité est achevé parfaitement. Par contre, ils parlent effectivement peut-être d'une mise en place d'une créolisation qui passerait notamment par la mise en place de nouvelles imaginaires. Et notamment, je pense que c'est dans la première partie du roman, oui, qui s'ouvre sur ce thème, sur le lieu, et Glissant écrit « circuler par l'imaginaire autant que par les moyens les plus rapides ou les plus confortables ». Puis plus loin, il dit « Ne croyez pas à votre unicité, ni que votre fable est la meilleure ou plus haute votre parole, alors tu en viendras à ceci, qui est de très forte connaissance, que le lieu s'agrandit et son centre irréductible, tout autant que ses bordures incalculables. » Bon, en résumé, moi, ce qu'il nous dit, c'est que il y a les murs. Il ne dit pas qu'ils n'y sont pas. C'est comme on dit, ils y sont, mais il y a cette idée que la littérature, comme vous disiez, elle peut servir à quelque chose. Et pour moi, là, c'est très fort parce que c'est dire, c'est en changeant peut-être et en proposant de nouvelles imaginaires qui sont bâtis sur cette idée de relation et qui montrent cette idée de relation qu'on va pouvoir petit à petit, progressivement aussi, aller vers cette idée de créolisation et peut-être pas d'hégémonie, comme on a pu voir souvent jusqu'à maintenant, de mondialisation, qu'on va pouvoir aller plus vers la mondialité, moins vers la mondialisation. Et quelque part, souvent, c'est un petit peu en place et pour montrer, être un petit peu positif et montrer quand même que cette circulation aussi existe et que l'on va vers ça. On voulait passer un petit extrait.
On va passer un premier extrait. Très sonore, une chanson qui s'appelle Fan Matinique Doux, qui a été chantée par une grande figure martiniquaise, Franz Charles, qui est plus connu sous le nom de Francisco, qui est décédé il y a très peu de temps, en 2013. Et là, pour illustrer la créolisation, eh bien, on va écouter une reprise par Maya, une jeune artiste japonaise, dans une version remaniée aux accents jazzy. Il y a de ta garçon, femme matinique de, il y a belle, il y a jolie. Il y a de chant, il y a de ta garçon, sans que tu dis ça, sans que tu dis ça. Matinique, c'est plus belle pays, sans que tu dis ça. Frog.
Donc voilà, pour revenir sur cette idée de créolisation d'Edouard Glissant, montrer que oui, bah, peut-être que ça va passer aussi par l'art, par la littérature et la mise en place d'imaginaire. Et peut-être qu'en ce sens-là, c'est ça que je voulais vous demander, c'est que le roman du tout-monde dans sa complexité, plus qu'une illustration, est-ce que c'est pas finalement une incarnation de la pensée de Glissant?
Oui, ça serait assez juste de dire ça. C'est, oui, au sens où le roman a toujours affaire à de l'humain, hein, par ses personnages, ça incarne sa pensée, ça la poursuit, ça la projette aussi vers les autres romans, vers le traité du tout-monde qui peut être effectivement aidé à comprendre et peut servir de boîte à outils à partir de ses concepts. Il n'est pas beaucoup plus simple, hein, ni beaucoup plus clair, hein, il est aussi opaque, mais en tout cas, il forge effectivement ce qui est déjà en gestation, qui est déjà engrainé dans le tout monde. Après, pour revenir à l'idée de la créolisation, il faut bien voir qu'à un moment donné, c'est venu s'opposer la créolité et la créolisation à la négritude dans l'histoire de la pensée de ces îles et puis de la pensée noire née de la décolonisation ou qui l'a accompagnée. Et la négritude a quelque chose d'un essentialisme, hein, de quelque chose qui serait partageable, quel que soit finalement le continent, et qui s'explique et qui a été utile à un moment donné à l'histoire de ces peuples pour combattre et obtenir un peu plus de liberté. Mais c'est pas suffisant pour décrire, c'est pas suffisant pour expliquer, c'est pas suffisant pour dire l'état du monde et puis pour le dire de manière complète, c'est-à-dire de moi et de l'autre, et pas de moi seul comme étant me suffisant à moi-même, non, je veux dire, donc du coup il a forgé ce concept de créolité et le phénomène ou le mouvement qui l'accompagne, qui est la créolisation et qui pour le coup n'appartient pas à un monde précis des Antilles pour le coup, et qui n'appartient même pas aux différents mondes créoles qui existent, c'est-à-dire que qu'on peut retrouver sur le continent sud-américain, mais qu'on peut retrouver également dans l'océan Indien. Ça n'appartient pas à ça appartient au monde dans son entier, son intégrité, dans son intégralité, en tout cas dans toute sa complexité. Il y a des créolisations en cours partout dans le monde. Si on prend aujourd'hui les Congolais qui vivent en Chine et qui font des allers-retours, puisqu'il y a désormais un avion qui fait Congo, Kinshasa, Wenzhou, quasiment une fois par semaine. J'exagère, je ne connais pas les horaires. Hein. Mais ça produit une créolisation. C'est une créolisation qui avance sans cesse. La mondialisation transporte des objets, mais les hommes qui transportent avec ces objets-là créent du mélange, se confrontent, apprennent des langues, en créent des nouvelles. Ça, c'est un phénomène qui ne cesse pas, qui ne cessera jamais. On aura beau construire des murs, on ira toujours plus vite. Cet échange-là se fera toujours plus vite. Après, comment la littérature, elle s'arrime à ça? La littérature, elle peut révéler, elle peut montrer, elle peut dégager des choses de ce chaos, ou s'arrêter un instant, regarder une image, un objet, une trajectoire, une dérive, et la tirer de ce chaos-là. Après, elle sert qu'à ça, c'est déjà pas mal, ça lui permet de se poser et de donner à voir, à entendre, à déguster.
Alors, vous donniez des exemples de créolisation, des exemples contemporains, et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la postérité de l'œuvre de Glissant aujourd'hui, un auteur qui a quand même commencé à écrire dans les années 50. On sait aujourd'hui qu'il a toujours une influence importante dans la littérature. C'est une œuvre aussi qui a embrassé tellement de à la fois la littérature, la philosophie, la sociologie, la politique, tout ça se croise dans l'œuvre de Glissant. Et on voulait donc aborder ça, l'actualité pardon, de la pensée de Glissant aujourd'hui, notamment en écoutant Patrick Chamoiseau, dont vous parliez tout à l'heure, que Glissant connaissait bien. Ils ont même écrit ensemble « L'intraitable beauté du monde adresse à Barack Obama ». Alors, on vous propose d'écouter un extrait donc, où on l'en entend Chamoiseau, qui a obtenu en 92 le prix Goncourt pour Texaco, et qui nous explique, qui reprend cette notion dont on a déjà parlé, donc le tout-monde.
Le tout-monde, aujourd'hui, c'est une espèce de mise en interaction accélérée des peuples, des cultures, des hommes, des traditions, etc., etc., et que ça relativise tout et que ça change tout. Nous sommes obligés aujourd'hui, quel que soit l'endroit dans lequel nous vivons, quel que soit le Dieu, la culture, la langue dans laquelle nous existons au monde, nous sommes forcés de tenir compte des autres langues, des autres cultures, des autres positions, des autres traditions. Nous avons quitté les anciens absolus. Le processus de créolisation qui s'est produit dans les plantations esclavagistes n'a pas produit de synthèse. Ce n'est pas un élément blanc plus un élément noir qui aurait fait un petit élément gris. C'est un mélange un peu chaotique, incertain, fluide, avec des positionnements différents. Les béquets essayent encore, les descendants des colons blancs essayent encore de préserver une pureté fantasmatique occidentale. Avec la négritude, on a eu aussi le désir de préserver une pureté fantasmatique africaine. Donc on s'aperçoit que la synthèse n'est pas évidente, que la mosaïque s'est constituée, mais que cette mosaïque a été en inter-rétroaction, c'est-à-dire que tout le monde a influencé tout le monde. Donc à l'intérieur de moi, j'ai le monde amérindien, le monde africain, l'Europe, etc. J'ai la totalité du monde.
J'ai la totalité du monde. Alors vous qui avez lu Chamoiseau aussi, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est un, pour vous un héritier véritable, un héritier de Glissant. Où est-ce qu'on peut trouver ailleurs cette pensée de Glissant vivante aujourd'hui?
C'est pas à moi de décerner ce titre d'héritier. Bah, après, oui, Chamoiseau, il a accompagné. Je veux dire, il est présent dans le tout-monde, d'ailleurs, en tant que personnage. Hein. Ils se sont accompagnés longtemps, l'un et l'autre. Mais après, je pense que Chamoiseau va continuer à porter. Il y a un institut du tout-monde, je crois, qui existe et qui continue de porter l'héritage. Finalement, peu importe que Glissant, dans un siècle, soit reconnu comme un des écrivains importants du XXe siècle, c'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est que ce qu'il décrit est effectif et que ce qui... que cette intrication, cette rencontre, cette confrontation produit des choses. Et c'est ça qui est. C'est ça qui. Moi, ce qui me. Par exemple, je suis jamais allé aux Antilles. J'ai une image même précise hein, de ce que est la Guadeloupe ou la Martinique, qui est constituée de tous ces romans qui se sont additionnés, qui sont superposés, qui doivent être assez loin de la réalité de la Martinique. Mais peu importe, ça. C'est entré dans mon imaginaire. Ça m'a modifié à jamais.
Ce que disait Glissant, justement, qui disait que l'imaginaire allait précéder, finalement, que c'est en construisant un imaginaire et en arrivant à le transmettre par différents biais, ça peut être aussi le cinéma, ça peut être cet imaginaire de la relation, de l'archipel, qu'on allait peut-être avancer aussi et passer derrière les murs, quoi, pour les traverser, je sais pas comment dire, ou les détruire, soyons fous.
c'est notre capacité à ne pas avoir peur à affronter les murs. Ce que je veux dire, c'est que la créolisation que décrit Glissant, elle est effective tous les jours à Marseille. Elle se réalise tous les jours à Marseille.
Cet invité est insupportable, il devance toutes nos questions.
C'est une réalité. Dans les cités des quartiers nord ou dans les rues du centre-ville, il y a quelque chose d'un entrechoc qui est de l'ordre de la créolisation. Après, la question, c'est les bagages de mots que les gens ont et qui peuvent permettre de décrire cette complexité. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en partage, c'est ça qu'il faut arriver à partager au maximum. C'est avoir les mots pour décrire le monde et avoir les mots pour partager la complexité. On en est là. Je veux dire, si avec 200 mots, on peut pas affronter la complexité. Et ça, c'est une barrière beaucoup plus forte que les murs. C'est ça le risque, c'est cette ignorance-là.
Mais c'est vrai que notamment par rapport à la Méditerranée et Marseille, hein, du coup, voilà, c'est vrai que c'était ma prochaine question, donc tant pis pour moi, mais c'est bien, vous y avez répondu, donc c'est l'important. Mais que le concept de créolisation est vraiment aujourd'hui, même à l'université, appliqué ou du moins. Transposé dans le contexte de la Méditerranée et de l'Europe. Et notamment, il y a un critique politique et un universitaire très connu qui s'appelle Armando Gnisci, qui est un italien et qui a écrit Creolizzare l'Europa, qui est créoliser l'Europe et qui justement insiste sur toutes ces cette transposition et cette mondialité, puisqu'on ne sait pas cette application dans l'intégralité du monde, pour reprendre vos mots, de la pensée de Glissant. Et du coup, c'est vrai qu'on avait aussi envie de vous demander à vous, en tant que journaliste, finalement, quand on est travaillé, on est forgé par ce type de pensée-là, dans un contexte, dans une ville monde, comme vous dites, comment est-ce que vous, cette pensée-là, elle vous a, peut-être vous en tant que personne et en tant que journaliste aussi dans votre pratique, influencé, travaillé
C'est difficile à dire. Après, moi, j'ai une approche personnelle qui n'est pas forcément partagée d'ailleurs par les autres journalistes, c'est que pour moi c'est un métier littéraire. Je veux dire, mais pas au sens de parce que j'écris et donc je serai un sous qui produirait une sous-littérature. C'est pas ça la question, c'est que je suis là pour regarder. Je suis là pour regarder, écouter, poser des questions. Et ça, c'est un positionnement littéraire. Et donc, ça c'est la première chose. Donc du coup, les morceaux de vie que j'ai à voir parce que j'ai ce métier, je les prends comme des faits littéraires. Et je les savoure comme des faits littéraires, même si c'est des éléments du réel. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que le métier de journaliste, normalement, doit nous permettre de passer les frontières. C'est-à-dire qu'il doit nous permettre d'aller au-delà de ces murs, d'aller dans la capacité de notre propre courage et aussi du mur à laisser la porte s'ouvrir. Mais du coup, ça donne à voir des morceaux de réalité qui sont... Qui sont cette complexité-là. Voilà, je dis souvent, le monde n'est pas noir et blanc, il est gris, et après, c'est à nous de voir... de créer le contraste qui permet de faire ressortir ce qui nous paraît pertinent ou juste ou à montrer aux autres. Créer le contraste et dépasser les idées reçues ou les lieux communs qui sont notre lot quotidien pour faire émerger une réalité partageable.
Bien,
voilà, ça c'est dit, c'est beau et c'est bien dit.
Non mais c'est vraiment précieux ce genre de témoignage de la part d'un journaliste et je suis bien ravie qu'on termine sans avoir oublié votre métier parce que c'était pas sans lien avec ce...
En voie de disparition.
avec ce roman. Eh bien, comme l'émission se termine, on va passer à la chronique du libraire. Le livre de Frog. Alors, Erika, tu es passée chez le libraire pour nous ramener trois idées poches.
Oui, alors j'ai même volé, couru voler tout ce que l'on voudrait chez le libraire. À la librairie Maupetit, on y était déjà passé il y a quelques mois de ça. Et finalement, j'étais, je l'avoue, un petit peu pressée. Donc j'ai proposé à Damien, et je remercie d'avoir joué le jeu, un petit défi de me proposer trois romans en 3 minutes, chose qu'il a fait, et qui, enfin un peu plus de 3 minutes, allez, au final on y reste un peu plus, je veux bien, et l'avouer, et il m'a donc proposé trois romans poche, parce qu'on a pensé à vous, on s'est dit que peut-être après les fêtes, les bourses étaient un peu plus légères, mais nous voulons quand même que, si vous avez envie, vous allez pouvoir acheter donc ces trois romans poche, qui sont, alors il nous a proposé Kamel Daoud, Meursault contre enquête, donc qui a fait un petit peu polémique aussi, parce que c'est donc toutes des questions sur l'identité, en fait, donc Meursault, le fameux personnage de Camus, donc dans L'Étranger. Et c'est un peu justement, il renverse le point de vue et c'est une vision sur l'étranger de Camus, mais raconté en fait, l'étranger de Camus raconté par le frère de l'arabe tué par Meursault dans Camus. Il a fait assez polémique parce qu'il a été sur les listes du Goncourt et il paraît qu'il a fait assez polémique ces derniers temps parce qu'il y avait, j'ai peur de dire des bêtises, alors je vais m'en tenir là, mais il a fait polémique en tout cas sur les réseaux sociaux.
Il fait l'objet d'une fatwa très récemment. Là. Donc,
Benoît va nous aider.
Non, pas du tout. Mais ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un roman écrit par un pied noir et la réponse qui est faite peut-être 40 ans, 50 ans après par un arabe qui crée le complément. Et en face, ceux qui sont en quête de pureté et qui balancent une fatwa parce qu'ils seraient... par son écrit, il aurait injurié quelle pureté.
Ou
incité, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, là, on est bien dans une histoire qui raconte, qui prouve bien que l'histoire se poursuit au-delà.
Voilà, donc le premier. Après, nous avons un roman de Wadji Mouawad qui s'appelle Anima et qui en fait raconte une enquête sur un mari qui cherche le meurtrier de sa femme qui a été assassinée sauvagement. Et en fait, c'est assez original. C'est encore une histoire de point de vue, sauf que cette fois-ci, le roman dans sa totalité est raconté du point de vue d'animaux. Voilà, il paraît que c'est assez original, très polyphonique et très bien écrit. Et pour finir, Hugues Away, Silo. Alors ça, c'est la nouvelle branche de chez Babel, qui s'inaugure avec de la science-fiction. Donc c'est dans plusieurs siècles. Et ce sont donc des gens qui sont obligés de vivre dans un silo enterré sous terre, un immense immeuble d'une centaine d'étages. Et en fait, ils ne peuvent pas sortir. Et bon, de là, parce que ça serait dangereux, impossible de vivre sur Terre dans 200 ans. Et de là se développent plusieurs centaines de pages, une nouvelle fois qu'on nous a dit bien écrite. Donc voilà, je finis car nous n'avons plus de temps pour parler aujourd'hui. Une minute. Je vous remercie, Benoît, bien sûr.
Merci à vous.
Et puis nous, on se retrouve le mois prochain, Élodie.
Au mois prochain.
Merci beaucoup.
Le livre de Frog.
Littérature, livre,
invité. Le livre de Frog.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.